Bonsoir à tous, bienvenue sur Biblos. On est content de reprendre ce cours avec vous sur la suite de la lettre aux Romains. Donc, on a 254 inscriptions pour cette année et on est content parce que il y a plusieurs personnes d'Europe, d'Afrique qui viennent et plusieurs étudiants qui sont inscrits. On va continuer à décrypter l'évangile, du moins, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. On va voir comment on peut l'appliquer cette année et comment nous allons voir. On a fini par ce très beau strophe de poème qui disait « Amour divin, qui peut décrire ta plénitude et ta beauté? Pour te chanter et pour te dire, il nous faudra l'éternité. » Et on repart donc pour ce cours avec l'évangile appliqué. Et on commence avec Joël qui va se joindre à nous et qui va nous faire la présentation du chapitre 9, du verset 1 au verset 33. Donc Joël, je vais prier pour toi et oui, tu pourras commencer. Oui, Seigneur, nous souhaitons te remettre, tu vois, ces moments. Nous te demandons d'accompagner Joël et de permettre que tu puisses, là encore, lui donner de pouvoir être clair dans sa présentation et de pouvoir arriver à être compréhensible. Nous te remettons aussi chacun derrière son écran. Nous te demandons de permettre que tu nous enrichisses comme tu l'as fait les années passées et nous te rendons gloire car nous pouvons nous réunir pour lire, étudier ta parole et tu vois combien cela fortifie notre foi. Nous te remettons toutes choses en te bénissant et en t'adorant. Amen.
Merci.
Merci. Bonsoir à chacune et à chacun. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver de façon virtuelle pour partager ces deux soirées, puisque nous nous retrouverons, Dieu voulant, lundi prochain pour l'étude du chapitre 10 de cet épître aux Romains. Et donc, ce qui m'incombe en cette première soirée, c'est de traiter le chapitre 9. Mais peut-être qu'avant de traiter le chapitre 9, il peut être utile de remettre les éléments dans leur contexte, puisque l'étude du chapitre 8 date d'il y a déjà quelques mois. Et de plus, j'ai cru comprendre aussi que certains se joignaient à nous sans avoir suivi l'étude des 8 premiers chapitres qui a eu lieu lors de la période de l'année scolaire précédente. Donc, si vous le voulez bien, nous poserons d'abord le contexte, quel est le but et le plan de l'épître aux Romains, puis ensuite nous ferons la lecture du chapitre 9, ensuite nous aurons une phase assez courte d'observation, pendant laquelle nous examinerons quelques difficultés textuelles de ce chapitre, avant le plat de résistance, si je puis dire, que constituera la quatrième partie de mon exposé, sur le sens du chapitre 9, la partie d'interprétation. Et puis, je suggérerai 3 pistes d'application sur la portée actuelle du chapitre 9 en conclusion. Alors, tout d'abord, nous allons donc nous intéresser plus précisément au contexte de cette lettre pour la replacer un petit peu dans son ensemble et nous regarderons successivement l'histoire de la lettre, le triple but qui me semble être celui de la lettre, et nous proposerons aussi quelques plans pour cette lettre. Alors, ceux qui connaissent auront peut-être vu que la méthode utilisée pour cet exposé est assez classique, puisqu'on part du contexte, la lecture, l'observation, l'interprétation, l'application, la méthode OIA, très éprouvée. Donc, je n'ai pas fait grande originalité ce soir en la matière. Donc, essayons de poser d'abord l'histoire de la lettre. Sur cette frise chronologique, je vous ai mis quelques dates qui me semblent importantes. La première, c'est 30, en l'an 30. C'est la date que, personnellement, je trouve la plus convaincante pour fixer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, et aussi la descente de l'Esprit lors de la Pentecôte. Pourquoi cet événement est-il important? C'est que dans la liste des 15 nations qui sont mentionnées comme ayant entendu la première prédication de Pierre ce jour de la Pentecôte, figurent des gens de Rome. Et donc on peut bien penser que les premiers chrétiens de Rome ont été des pèlerins venus pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem et qui ont entendu la prédication de Pierre, ont eu le cœur saisi et se sont tournés vers Jésus comme leur Messie. Repartant à Rome, ils ont sans doute constitué l'embryon de ce qui allait devenir plus tard l'Église à Rome. Et sans doute pendant une période assez longue, l'Église à Rome a été très majoritairement, peut-être même exclusivement, judéo-chrétienne, c'est-à-dire composée de chrétiens d'origine juive, qu'ils soient juifs d'origine ou prosélytes. On sait que dans le premier siècle, il y avait un certain nombre de personnes qui s'adjoignaient aux juifs et que le judaïsme était une religion qui attirait. Et donc cette église judéo-chrétienne s'est développée pendant cette période-là. En 49, il y a eu un décret lancé par l'empereur Claude qui a obligé les juifs à partir, à quitter Rome. Cet édit d'expulsion des juifs de Rome a eu une conséquence majeure pour l'église naissante, puisque faut bien voir que pendant une longue période, dont les livres des Actes se fait d'ailleurs l'écho, jusque sans doute à peu près vers le début des années 60, les chrétiens n'étaient pas distingués des juifs. C'était une des sectes juives, il y en avait un certain nombre parmi d'autres. Et donc, l'expulsion des juifs de Rome voulait dire aussi l'expulsion des juifs qui étaient devenus chrétiens. Et donc, à la place, se développe une église pagano-chrétienne qui est formée de personnes d'arrière-plan non-juifs qui se sont converties à Jésus-Christ, sans doute au travers de voyages. On voit par la longue liste de salutations du chapitre 16 qu'il y avait sans doute des personnes qui avaient été au contact de l'Évangile, ici ou là, peut-être par le ministère de Paul. Et puis, à la mort de Claude en 54, les Juifs reviennent progressivement à Rome et se développe ainsi une église mixte avec des personnes d'arrière-plan juif et des personnes d'arrière-plan païen. Et c'est dans ce contexte que 3 années plus tard, Paul de Corinthe rédige l'épître aux Romains pour préparer la venue prochaine qu'il espérait pouvoir faire à ses chrétiens à Rome. Donc voilà un petit peu posé les éléments chronologiques. Quelle est maintenant la situation de l'Église de Rome en 57 quand Paul prend la plume pour leur adresser cette longue lettre? Eh bien, il s'agit d'une église qui vit dans un contexte difficile. On se rappelle que à cette période-là, l'empereur, c'est Néron, et pas un parangon de vertu, loin s'en faut, même si ses turpitudes les plus tristes se sont accrues encore après cette date. C'est un contexte très polythéiste, dans le sens où l'Empire romain agrégeait les divinités de toutes les périodes, les parties de l'Empire qu'il avait conquises, et donc trouvait toutes sortes de dieux. Et puis c'est un contexte aussi d'agitation sociale et politique, parce que si le règne de Auguste, le long règne d'Auguste qui s'était terminé en 15, avait été une période très pacifiée, eh bien la ville de Rome était toujours soumise à des soubresauts d'origine politique plus ou moins maîtrisés. Et donc, il y avait aussi toute cette agitation sociale et politique. C'est une église prospère et dynamique. Si on en croit l'introduction que Paul en fait au chapitre 1, on voit que les Romains étaient dans une situation plutôt favorable comme église. Et puis, c'est une église composite, comme je l'ai indiqué, des personnes d'arrière-plan juif, des personnes d'arrière-plan chrétien, et on comprend aux différentes exhortations qui sont adressées aux chrétiens par cette lettre que, eh bien, il y avait des situations assez diverses au sein de cette église. Et enfin, c'est une église décentralisée. Alors, c'est à comprendre puisqu'il est question au chapitre 16 des groupes qui se réunissent dans telle ou telle maison. Néanmoins, Paul adresse cette lettre à l'ensemble de ces groupes qui figurent dans cette grande ville de Rome. Donc voilà le contexte dans lequel Paul envoie cette lettre à cette église à Rome et qu'il convient de bien comprendre et prendre en compte pour saisir les enjeux de cette lettre. Deuxième sous-partie, quel est le but de cette lettre aux Romains? On s'est beaucoup interrogé sur la finalité de cette lettre aux Romains. Il faut bien voir que c'est quand même un monument. Elle figure en tête des 21 épîtres rédigées par l'apôtre Paul, D'abord parce que elle est la plus longue de toutes, hein, et la plus longue de toutes les épîtres du Nouveau Testament, mais aussi parce qu'elle est une épître un peu de fondement. Et si les responsables de Biblos ont souhaité consacrer autant de sessions à l'étude de cette lettre, c'est bien que elle forme un fondement de notre foi. Alors, quel est le but pour lequel Paul a-t-il écrit cette lettre? Est-ce que c'est parce qu'il voulait faire un traité de théologie? Pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il voulait préparer son voyage? Sans doute, mais pas seulement. Et il me semble qu'on peut regrouper les différents buts de cette lettre sous trois aspects. C'est une lettre d'affermissement, une lettre de réveil et une lettre de support. Et j'en veux pour preuve ce qui est souvent reconnu comme étant le verset clé de cette lettre, à savoir les versets 16 et 17 du premier chapitre. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, le juif d'abord et aussi le grec, car la justice de Dieu y est révélée par la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, Or le juste vivra par sa foi. Donc on voit les mots, plusieurs mots très importants de cette lettre, l'Évangile, sauver, justice de Dieu, la foi, etc. Mais il me semble qu'on peut aussi raccrocher les trois buts. C'est une lettre d'affermissement, puisque Paul va y développer cette justice de Dieu révélée par la foi. Ensuite, c'est une lettre de réveil, puisqu'il indique qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Je me rappelle quand j'étais petit, on chantait dans les camps, Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'était la puissance de Dieu. Mais je me disais, mais pourquoi Paul il dit ça, Je n'ai pas honte de l'Évangile? Alors, peut-être parce que je n'avais peut-être un petit peu honte, mais aussi cette formulation en creux fait penser que ben, peut-être que certains avaient un peu honte de l'Évangile. Et nous y reviendrons là-dessus. Puis troisièmement, une lettre de support, et cela nous le voyons au travers de cette expression qui revient à plusieurs reprises dans la lettre, le juif d'abord. Et aussi le grec. Donc prenons ces trois buts les uns à la suite des autres. Une lettre d'affermissement, puisque c'est ce que la lettre elle-même nous dit. Au chapitre 1 et au verset 11, Paul dit, à la fin du paragraphe introductif, Je désire ardemment de vous voir afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis. Et puis, à la fin de la lettre, symétrique, je vous ai écrit avec beaucoup plus de hardiesse, frères, comme si je réveillais vos souvenirs. À cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc, affermir, dans le plein sens du mot évangile, l'évangile dans toute sa portée et sa vastitude. Deuxièmement, réfuter. Pourquoi? Parce que on prêtait peut-être à Paul des propos qu'il n'avait pas tenus. Et que ses opposants mettaient en avant pour s'opposer à lui. Par exemple, chapitre 3, verset 8, il dit, Et pourquoi pas ne pas dire pratiquons le mal afin qu'arrive le bien, comme on nous en accuse calomnieusement et comme certains prétendent que nous disons. Donc c'était aussi pour Paul l'occasion de remettre les choses un peu au point. Voilà ce que vraiment je dis, voilà ce que je n'ai pas dit. Et troisièmement, avertir des dangers qui pouvaient rapidement surgir, comme il le dit à la fin de la lettre au chapitre 16, je vous exhorte frères à surveiller de près ce qui cause les divisions et les occasions de chute, parce qu'il est contraire à la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Donc, trois buts, affermir, réfuter, avertir. Et cela conduit Paul à traiter beaucoup de grands thèmes bibliques. Grand thème biblique avec parfois des polysémies délicates, hein, comme sur le sens de la loi, terme qu'il utilise sous plusieurs aspects, le terme chair également. Et donc, il va nous parler de la justice de Dieu, nous y reviendrons pour nos chapitres 9 et 10, du péché, du salut, de la colère de Dieu, de la sanctification, de l'élection, de l'œuvre du Saint-Esprit, des plans de Dieu quant à Israël. Donc, beaucoup de grands thèmes bibliques se retrouvent dans cette lettre aux Romains et on comprend que cette lettre soit très fondamentale, qu'elle soit très souvent étudiée, qu'elle était aussi l'occasion de réveil magnifique, puisqu'elle pose des fondements qui sont absolument fondamentaux. Mais il n'y a pas tous les thèmes bibliques. Même parmi les thèmes très pauliniens, nous en trouvons certains qui sont à peine effleurés ou ou pas très développés, comme par exemple l'Église, l'ecclésiologie, il faudra se tourner beaucoup plus vers Éphésiens ou un Corinthien que vers Romains. Pour la prophétie, si on trouve des petites allusions, mais pour l'eschatologie, les épîtres aux Thessaloniciens vont nous donner plus d'éléments. Et quant à la personne de Christ, sur la christologie, nous aurons un verset très important ce soir, mais l'épître aux Colossiens, par exemple, développe plus largement ce thème-là. Tout ça pour dire que l'épître aux Romains, si importante soit-elle, ne doit pas être la seule épître que nous lisons. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, donc nous avons besoin de tout le corpus du Nouveau Testament pour avoir une vision complète de la pensée de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Deuxième but. Une lettre de réveil. Des Romains qui étaient appelés à se réveiller, comme Paul le dit dans ce court paragraphe qui est au cœur de la partie exhortative de sa lettre, chapitre 13, versets 11 à 14. Encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous. Conduisez-vous, conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Un paragraphe assez solennel par lequel Paul appelle les Romains à se réveiller et à laisser de côté les comportements qui étaient propres à l'environnement dans lequel ils vivaient, pour mettre d'abord en avant le Seigneur Jésus-Christ. Une lettre de réveil aussi dans le sens où Paul veut peut-être réveiller les Romains quant à leur zèle missionnaire. On voit que Paul se proposait de passer par Rome avant d'aller jusqu'en Espagne, et il dit aux Romains, j'espère que vous me ferez la conduite de ce côté-là. On ne sait pas si Paul a pu mettre ses projets à exécution une fois qu'il a été libéré de son premier emprisonnement à Rome, mais toujours est-il que peut-être voulait-il aussi réveiller les Romains quant à leur zèle missionnaire. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que cette lettre aux Romains a été l'occasion de multiples réveils tout au long de l'histoire de l'Église. Bien entendu, la réforme avec Martin Luther, mais également John Wesley, mais également le réveil de Genève avec Robert Haldane, tous ont commencé par se pencher sur cet épître aux Romains, et ensuite ça a donné des développements et des réveils absolument magnifiques. Donc deuxième but, une lettre de réveil. Troisième but, une lettre de support. Il y avait des tensions dans les églises au premier siècle. L'épître aux Romains n'est pas la seule à se faire l'écho de ces tensions qui pouvaient exister entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Le livre des Actes aussi l'évoque quelque peu. Et nous nous trouvons avec des Juifs qui étaient encore attachés à la loi de Moïse et avec tous leurs privilèges. Et Paul ne les remet pas en cause, hein. Nous y reviendrons plusieurs fois, mais chapitre 3, verset 1 à 2, il dit, mais quel est donc l'avantage du Juif ou quel est le profit de la circoncision? Considérable, de toute manière, et en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et puis nous avons la liste de tout ce dont bénéficient les Juifs, sur laquelle nous reviendrons au début du chapitre 9. Et puis à côté, il y avait des païens qui étaient encore influencés par leur ancien mode de vie laxiste. Et Paul, dans un développement très solennel à la fin du chapitre 1, décrit un petit peu tout le dévoiement moral des païens que les chrétiens pouvaient observer autour d'eux à Rome et dont eux-mêmes venaient. Et donc, vous voyez, c'était un peu deux origines, deux contextes, deux cultures, si je puis dire, qui étaient très différentes et qui se trouvaient un peu réunies dans ces églises à Rome et qui devaient cohabiter plus que cela, qui devaient construire ensemble en vivant la vie du corps de Christ. Et donc, Paul va, tout au cours de cette lettre, scander cette expression, autant juifs que grecs, les juifs et les grecs, ou les juifs et les païens, etc. Et il va insister, les juifs et les grecs sont sauvés exactement de la même manière. Et donc, il va faire de fréquents parallèles, j'en ai mis deux pour tous également coupables, hein. Nous venons d'accuser aussi bien juifs que grecs d'être tous sous l'emprise du péché. Ça, c'est ce qu'il donne en conclusion de son tableau de la situation de l'homme pécheur, fin du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de la même manière qu'il y a ce parallèle sur la culpabilité universelle, tant des juifs que des païens, tous sont également sauvés, et c'est ce que Paul développe, entre autres, dans deux versets des chapitres qui nous intéressent ces soirs-là. Dieu a renfermé juifs et nations dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Il n'y a pas de différence entre juifs et grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qu'il invoque. Vous voyez combien Paul a le souci de mettre ces tous en avant pour dire, ben, voyez, c'est pas une caste de privilégiés parce que ils sont juifs et puis des païens qui sont là, ou c'est pas des païens qui sont privilégiés parce que ils regardent les juifs qui ont crucifié Jésus d'en bas. Voilà, voyez, non, non, c'est vraiment Paul a ce souci de dire, voyez, le salut est ouvert à tous, et c'est pour ça qu'il insiste aussi bien juifs que grecs, etc. Très, très fréquemment. Sinon, ça peut surprendre un petit peu à la lecture cursive de la lettre de trouver ces insistances. On se dit un petit peu, mais pourquoi Paul a fait ça? Donc, c'est une lettre de support qui débouche du coup sur un certain nombre d'exhortations. Là, nous allons étudier pendant 3 soirs les chapitres 9 à 11. Et c'est ensuite dans la partie exhortative des chapitres 12 à 15 que nous allons trouver beaucoup d'exhortations au support, en particulier les faibles et les forts. Et les faibles et les forts, ils sont ensemble. Chacun a sa place dans l'Église, qui est vue sous la forme du corps de Christ. Nous qui sommes un grand nombre, sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre les uns des autres. Le chrétien d'origine juive était membre du chrétien d'origine païenne et réciproquement. Hein, chacun individuellement membre les uns des autres. Et cela devait conduire à mettre de côté toute propension, soit au jugement, soit au mépris. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Celui qui mangeait, c'était peut-être le païen, bah, il pouvait mépriser le juif, mais pourquoi tu manges cachère? Et par contre, le juif, il pourrait dire, ah ben moi, je mange cachère, et toi, tu es un mauvais chrétien parce que tu manges du jambon. Voilà. Et Paul insiste, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Et la conclusion magnifique à laquelle il arrive au verset 7 du chapitre 15, recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Donc il importe, me semble-t-il, que nous gardions un peu en mémoire ces 3 buts parce que nous allons aussi les retrouver dans nos chapitres. Alors peut-être pas avec la même emphase, puisque ça dépend un petit peu de chaque partie de la lettre, mais ce sont ces 3 buts. Donc une lettre d'affermissement, une lettre de réveil et une lettre de support. Venons-en maintenant à la troisième sous-partie de mon mise en contexte, c'est les plans pour la lettre. Alors là, je dirais que l'épître aux Romains, c'est un régal pour les plans parce que ça se déroule de façon extrêmement logique. Et le salut est un peu logique dans un sens. Donc Paul a une progression qui est très construite. Vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi les 8 premiers chapitres avec cette structuration de l'état de l'homme, ensuite le salut apporté, ensuite le processus de sanctification au cours de la vie chrétienne et la magnifique conclusion avec la perspective de la gloire que nous donne le chapitre 8. Les chapitres 9 à 11 sur lesquels nous allons porter notre étude s'inscrivent eux aussi dans cette partie doctrinale. Et je ne vais pas beaucoup détailler ce soir parce que je pense que le temps m'en manquera les articulations différentes que nous trouvons entre ces 3 chapitres. Je réserve cela pour le lundi prochain. Mais toujours est-il qu'on voit ce grand mouvement qui continue et qui se termine d'ailleurs à la fin du chapitre 11 par ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire un discours de gloire. c'est-à-dire aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire éternellement. Ces expressions de louange clôturent donc cette partie doctrinale. Et elle est suivie d'une, ce qu'on appelle techniquement une parénèse, hein, vous aurez peut-être appris un nouveau mot ce soir, c'est-à-dire une partie exhortative avec des enseignements moraux qui sont les chapitres 12 à 16. Donc, vous voyez, si on veut diviser Romains de façon extrêmement simple, on peut dire les 11 premiers chapitres et puis ensuite les 5 derniers. Alors, je disais que la progression était très construite et c'est vrai qu'il y a des ruptures claires qui sont marquées par des mots-clés, mais maintenant, avec le passage de 3:20 à 3:21, l'état de l'homme met maintenant ce que Dieu a fait dans le salut qu'il nous a apporté. Et puis ces fameux donc qui ponctuent de façon très importante le début du chapitre 8 et le début du chapitre 12. Et puis nous trouvons aussi des conclusions intermédiaires avant la conclusion finale que nous allons trouver au chapitre 16 avec rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ à la fin du chapitre 8 et puis la doxologie à laquelle je viens de faire allusion au chapitre à la fin du chapitre 11. Alors, il y a d'autres ruptures qui sont un petit peu moins nettes, par exemple le statut du chapitre 5. D'aucuns pensent que c'est plutôt la conclusion des chapitres qui précèdent, d'autres que c'est plutôt l'introduction des chapitres qui suivent, d'autres le scindent en deux parties en disant ben, jusqu'au verset 11, c'est plutôt par la conclusion de ce qui précède, et partie du verset 12, c'est plutôt l'introduction de ce qui suit. Voilà, il y a des bons arguments en fonction pour ces trois options. Dans notre chapitre de ce soir, nous avons le statut du dernier paragraphe que d'aucuns lient au chapitre 10 et d'autres disent non, non, c'est la conclusion plutôt du chapitre 9. Personnellement, j'incline davantage vers cette seconde option et je m'en justifierai la semaine prochaine. Et puis, quid de la conclusion de la partie fort et faible? Est-ce qu'elle est plutôt 15-7? Est-ce qu'elle est plutôt 15-13? Là aussi, il y a des discussions. Donc, tout ça pour dire que les plans sont solidement structurés. Mais il peut y avoir des nuances en particulier sur ces quelques options, et puis il y en aurait peut-être une ou deux autres à rajouter. Donc, si je prends un plan très simple par mots-clés, on pourrait dire qu'il y a une introduction, condamnation de l'homme, justification par l'œuvre de Christ à la croix, sanctification dans la vie chrétienne, glorification, et puis dans la partie qui nous intéresse, ce serait dispensation avant application et conclusion. Vous voyez? Comme ça, on prend juste un seul mot, un mot-clé par section. Alors, si on prend maintenant le thème de la justice de Dieu, on a vu à quel point dans ce verset clé de chapitre 1, versets 16 à 17, il était question de cette justice de Dieu. Eh bien, on peut dire que la première partie, la justice de Dieu révèle l'injustice de l'homme. Dans la deuxième partie, jusqu'au chapitre 5, verset 11, la justice de Dieu sauve l'homme injuste. Ensuite, la justice de Dieu sanctifie l'homme qui a été sauvé. La justice de Dieu s'inscrit dans l'histoire, et ça c'est notre partie. La justice de Dieu est vécue dans les croyants, ça c'est la partie plus pratique avant la conclusion. Un autre plan qui a aussi tout à fait sa pertinence. Allez, un troisième et puis on s'arrête là. Un plan thème sur le travail de Dieu. Je crois que c'est quelqu'un qui avait proposé ça. Donc, une introduction avec annonce du thème, puis ce que Dieu doit faire parce que la situation de l'homme est désespérée, ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est ce salut qu'il a opéré par l'œuvre de Christ à la croix. Ce que Dieu fait en nous, c'est ce processus de mort au péché et mort à la loi. Et ce que Dieu fait de nous, il fait de nous des enfants qui sont destinés à la gloire. Et puis dans la partie qui nous intéresse, ce que Dieu a fait pour Israël et pour les nations, avant la partie pratique, ce que Dieu fait par nous. Et puis les projets de Paul, la salutation et la conclusion. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ces plans, on pourrait aller plus avant, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la lecture de notre chapitre 9. Donc nous passons à la deuxième partie de l'exposé, la lecture du chapitre 9. Alors, c'est un patchwork que je vous propose de différentes traductions, essentiellement basées sur la NBS, un petit peu de Second 21, un petit peu de Darby. Voilà. Mais essentiellement à la base de la NBS, qui est, je trouve, une excellente traduction pour l'étude biblique. Je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'ai une grande tristesse et un tourment continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même maudit séparés du Christ pour mes frères, les parents selon la chair, eux qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la loi, le culte, les promesses, les pères, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Bien que de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais c'est en Isaac que te sera appelée une descendance. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. En plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul homme, Isaac, notre père. Les enfants, en effet, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu qui est selon son choix, relevant non pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand sera esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Jamais de la vie. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors diras-tu, comment peut-il encore faire des reproches? En effet, qui peut s'opposer à sa volonté? Mais toi, être humain, qui es-tu donc pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile pour un usage noble et un ustensile pour un usage méprisable? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître son pouvoir à supporter avec une grande patience des ustensiles de colère, tout prêt pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire à des ustensiles de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, c'est-à-dire nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimé. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des Israélites serait comme le sable de la mer, c'est un reste qui sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et rapidement sa parole sur la terre. Et, comme Ésaïe l'a dit d'avance, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les non-juifs, qui ne poursuivaient pas la justice, ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'il l'a poursuivie, non pas par la foi, mais par les œuvres. Ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement, ainsi qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause de la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Voilà donc la lecture de ce beau chapitre, pas le chapitre plus simple de l'épître sans doute. Et j'espère que les indentations que j'ai opérées permettait de saisir un petit peu l'organisation du texte. Mais j'en viens ici à ce que j'appelle la microstructure du chapitre 9. Et franchement, s'il y avait peut-être une planche sur laquelle il faudrait passer un peu de temps et que vous pourriez retenir, c'est celle-là. Parce qu'elle montre bien comment la pensée de Paul s'articule dans tous ces 33 versets de ce chapitre. 33 versets, c'est quand même portion relativement copieuse. Et les articulations de sa pensée et sa progression. Donc Paul commence par 5 versets d'introduction. Dans ces versets d'introduction, que fait-il? Il évoque ses sentiments pour les Israélites. Tout d'abord, il fait part de sa tristesse intérieure dans les 3 premiers versets. Puis, il développe dans une liste magnifique les 8 grands privilèges des Juifs dans les 2 versets qui suivent. Puis, il pose ce qui me semble être le point fondamental des 3 chapitres 9 à 11 au début du verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. Donc, les privilèges des Juifs n'ont pas empêché que beaucoup d'entre eux, la majorité, refusent le salut en Jésus-Christ, mais pour autant, la parole de Dieu n'est pas devenue caduque. Et donc Paul va s'employer à démontrer cela. Il va aborder tout d'abord le libre choix de Dieu dans l'histoire d'Israël. Et fin du verset 6 nous dit, car ce ne sont pas tous ceux qui sont issus d'Israël, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Et donc, il va prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui d'Isaac et d'Ismaël, ça ben, jusqu'au verset 10. Et le second exemple, c'est Ésaü et Jacob, les 3 versets qui suivent. Ensuite, il va évoquer le sujet du libre choix de Dieu et de sa justice. Pour répondre à l'objection du verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Jamais de la vie. Et pour répondre à cette objection, Paul va s'appuyer sur 2 paroles de Dieu, une parole de Dieu à Moïse sur la miséricorde, ce sont les versets 14 à 16, et une seconde parole de Dieu au Pharaon sur l'endurcissement, ce sont les versets 17 à 18. Puis, au verset 19, encore une autre question. Alors diras-tu, comment peut-il encore faire des reproches? On voit la façon très pédagogique dont procède Paul, puisqu'il... Il fait un peu les questions et les réponses, hein. Il anticipe les objections qui pourraient être avancées et pour y répondre, en particulier avec l'aide de l'écriture. Donc là, c'est le sujet du libre choix de Dieu et de sa souveraineté, et la réponse de Paul va s'articuler en 3 parties. Tout d'abord, sa première réponse, c'est que Dieu a les droits du Créateur, dans les versets 19 à 21. La deuxième réponse de Paul, c'est que Dieu révèle qui il est, et en particulier révèle sa patience, sa colère et sa miséricorde. Et la troisième réponse de Paul, c'est que Dieu l'a annoncé auparavant dans l'Ancien Testament, et il va citer 4 textes de l'Ancien Testament à l'appui dans les versets 24 à 29. Avant de conclure sur les 4 derniers versets de notre chapitre, donc les versets 30 à 33, que dirons-nous donc? Et Paul fait un peu un récap qui va aussi introduire le chapitre 10, ce qui explique que certains commentateurs relient ces 4 versets plutôt au chapitre 10. Il me semble que ça forme une conclusion adaptée au chapitre 9. Les non-juifs sont justifiés et les juifs ont à choper. Voilà comment Paul résume un petit peu le développement de ce chapitre. Donc voilà la progression, me semble-t-il, de la pensée de Paul. Voilà la façon dont il répond successivement aux différents arguments et différentes objections que lui-même soulève, mais qui pourraient surgir aisément dans l'esprit du lecteur, et ce qu'il donne à l'appui. Nous en venons maintenant à la troisième partie de mon exposé, l'observation, les difficultés du chapitre 9. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans une exégèse détaillée du texte de ce chapitre, qui d'ailleurs dépasserait mes compétences. Mais permettez-moi d'aborder néanmoins 4 points qui me semblent importants de clarifier avant d'aller dans l'interprétation. La première, c'est ce que Paul dit au verset 3. Je souhaiterais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères. Donc, d'autres traductions disent, je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, ou la parole de vie qui dit rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères. Donc on est surpris de ce terme maudit, anathème, qui sont quand même des mots très forts. Alors, on voit que Paul utilise par ailleurs hein, ce mot anathème pour une personne qui annonce un évangile différent de celui des apôtres. C'est ce qu'il dit au début de sa lettre aux Galates. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et à la fin de la lettre aux Corinthiens, il y a cette affirmation très solennelle pour une personne qui n'aime pas le Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, le Seigneur vient ou Seigneur vient. Donc, comment comprendre cette expression? Alors, d'après le temps qu'utilise Paul, on peut comprendre qu'il s'agit d'un vœu hypothétique. Je souhaiterais, je sais pas, je demande à Dieu, c'est plutôt une hypothèse. C'est une façon pour Paul de s'inscrire dans le même état d'esprit qui avait été 1500 ans auparavant, celui de Moïse. Vous vous rappelez lors de l'épisode du veau d'or, et Moïse était prêt à être rayé du livre de vie de Dieu pour que Dieu puisse user de miséricorde vis-à-vis du peuple. Donc on voit à quel point Paul s'inscrit dans cette démarche d'intercesseur pour les non sauvés, en particulier là en l'occurrence pour les Juifs qu'il a à cœur. Et puis aussi, il faut faire la part de l'hyperbole. Alors, je suis parfois frappé quand on lit l'écriture que on lit l'écriture, j'allais dire, de façon un peu plate, dans ce sens où l'écriture, elle a des aspérités liées au langage courant. Peut-être est-ce en tempérament un peu méditerranéen, mais parfois on pousse volontairement le bouchon un peu trop loin pour marquer le point, quoi. Voyez? Et Paul, c'est un méditerranéen, donc il ne faut pas trop s'étonner, voyez, si on a parfois des expressions qui nous semblent un peu outrancières, mais qui sont une manière de s'exprimer pour que vraiment on comprenne à quel point il est serré, il a cœur ses frères juifs, voyez. C'est aussi une manière pour lui de nous sensibiliser, de sensibiliser ses lecteurs et nous à travers eux à cela. Oui. Deuxième point un peu technique, c'est la divinité de Christ. Alors nous avons un texte qui est traduit différemment. Le texte de la NBS que j'ai repris, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Et on a de façon très proche toutes les versions que je vous ai indiquées ici. La Nouvelle Français Courant prend une autre option, qui m'a un peu étonné d'ailleurs, mais bon, je discuterai l'occasion avec Valérie Duval-Poujol. Le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Que Dieu, qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. Alors, il y a apparemment une vraie ambiguïté dans. On sait que le texte grec n'est pas ponctué, donc il n'y a pas une virgule ou un point après peuple. Et que Dieu qui est au-dessus de tout, voilà. Donc, les deux traductions sont justifiables à partir du grec, mais d'après ce que j'ai pu consulter, la plupart des exégètes, optent pour la traduction dite classique, qui est, semble-t-il, plus en phase avec la syntaxe. Et Paul fait sans doute dans ce verset un contraste entre l'humanité de Christ, de qui est issu selon la chair le Christ. Et puis sa divinité, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Alors, ça fait partie de ces quelques textes, même si celui-là est un petit peu ambigu. Hein. La prochaine fois que vous verrez un témoin de Jéhovah, il faut peut-être s'appuyer sur d'autres. Mais vous voyez, ça fait partie un petit peu des cinq ou six textes du Nouveau Testament qui affirment de façon très claire la divinité de Jésus-Christ, de façon directe, si je puis dire, on peut le trouver de façon aussi très indirecte. Dans les mentions trinitaires, etc. Mais de façon directe, nous avons Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 18, Jean 20, verset 28, Mon Seigneur et mon Dieu, Tite 2, verset 3, Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Hébreux 1, verset 8, Ton trône, ô Dieu, et puis de Pierre 1, verset 1, avec la salutation qu'il fait effectivement en mettant la divinité directement attribuée à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir ces quelques textes en tête et ces quelques références pour dire qu'effectivement, le Nouveau Testament affirme de façon non ambiguë la divinité pleine et entière de Jésus-Christ. Troisième point, la haine de Dieu. Là aussi, c'est un texte difficile, hein, verset 13, traduit littéralement par Darby et d'autres. Il est écrit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü », ou traduit plus dynamiquement par la seconde 21, « J'ai détesté Ésaü », par le semeur « J'ai aimé Jacob et pas Ésaü », ou par la nouvelle français courant « J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü ». Alors, c'est un texte important, hein, puisqu'il figure en introduction du dernier prophète de l'Ancien Testament, et dans un contexte de reproche, reproche non pas à Ésaü, mais à Israël. Dieu disant que son amour n'est pas payé en retour. Et Dieu réitère l'amour indéfectible qu'il a pour son peuple. Et donc ça rentre très bien dans le contexte de nos trois chapitres, bien entendu. Donc c'est un verbe à comprendre dans un contexte d'alliance où aimer, c'est choisir, et haïr, c'est rejeter. Et c'est donc, encore une fois aussi, un verbe à comprendre comme un sémitisme hyperbolique. Jésus a utilisé le même quand, en Luc 14, 26, il dit « Si quelqu'un ne vient pas à moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme. Voilà. » Encore, on lance le bouchon très loin pour bien faire comprendre l'autre. Dernier sujet technique avant de faire une petite pause, ce sont les citations de l'Ancien Testament. Alors, vous aurez remarqué qu'elles sont très nombreuses. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais une version d'Arby, et puis il y avait les notes avec, en minuscules et puis les notes en majuscules. Et les notes en majuscules, c'était les citations de l'Ancien Testament. Vous voyez que sur la page de Romains 9, on arrivait jusqu'à la lettre, je ne sais plus, O ou P, enfin, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc elles sont très nombreuses, à tel point que sur 86 citations de l'Ancien Testament par Paul dans l'ensemble de son corpus épistolaire, 27 se trouvent dans nos trois chapitres, soit 31% des citations pour 4% du texte. Du corpus paulinien. Vous voyez à quel point Paul s'appuie sur l'Ancien Testament pour démontrer ce qu'il veut montrer. Alors, ces citations sont diverses dans leur texte. Parfois, c'est tiré du texte massorétique, traduit en grec, bien sûr. D'autres fois, c'est les Septante. D'autres fois, on ne sait pas trop. Il y avait sans doute plusieurs versions de la Septante. Dans leur forme, ce sont des citations directes. Parfois, c'est plus indirect. Parfois, c'est plus des allusions. Les livres cités sont très divers, mais à signaler le poids très particulier dans ces 27 citations d'Ésaïe, qui est quand même prépondérant. Ces citations sont destinées à montrer les facteurs à la fois de continuité et de discontinuité entre les testaments. Donc de continuité, ce que Dieu a annoncé, eh bien ça se prolonge, mais aussi les discontinuités, en particulier par rapport au peuple d'Israël, avaient été annoncées dans l'Ancien Testament et Paul s'appuie là-dessus. Et enfin, elles sont parfois déroutantes dans leur utilisation parce qu'elles ne sont pas toujours très herméneutiquement correctes, a priori. On se dit, mais là, oh, Paul, il fait un peu une cabriole. Nous y reviendrons tout à l'heure quand nous en décrypterons une ou deux. Et on peut penser que Paul utilise ce qu'on appelle une forme midrashique, qui lui est d'ailleurs spécifique. Un midrash, hein, c'est l'appropriation et la contextualisation d'un texte de l'Ancien Testament. Comme le faisaient les commentateurs juifs. Et Paul s'inscrit aussi un petit peu dans cette tradition rabbinique. Hein. Il faut se rappeler qu'il est un rabbin élevé au pied de Gamaliel. Et il utilise aussi des formes que l'on retrouve dans d'autres commentaires. Donc, si vous voulez, c'était une façon assez courante à l'époque de procéder. Je m'arrête ici avant de rentrer dans ce que j'appelle le plat de résistance, la quatrième partie d'interprétation, et un petit peu. C'est un petit peu plus long que prévu, mais ce n'est pas trop grave. Donc là, je laisse la main à Claude Henry pour peut-être une ou deux questions.
Alors, on a trois questions pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir encore par la suite. Une première question, peut-être historico-grammaticale. Quelqu'un demande dans la différence qu'il y a en fait entre le mot juif et le mot israélite. Dans Actes 2, verset 5, il parlait du juif, mais dans Romains 9, 4, Paul parle d'israélite. Est-ce
Alors,
que
c'est
tu
une
peux
excellente
donner
question.
quelques
Oui,
pistes?
je la mets en buffer parce que je le traite dans la partie 4.
D'accord, alors
Donc,
on
j'espère que
passe.
la réponse pourra être donnée dans quelques minutes.
Alors je demande à Samuel de bien écouter la partie suivante. Alors une autre question qui m'a aussi. J'aurais voulu prendre des notes, mais je n'ai pas réussi. Mais Noémie demande si tu peux juste redonner les références concernant les versets qui parlent de la divinité du Christ.
Oui, je vais les taper dans le chat, hein, comme ça au moins vous les aurez.
Oui, d'accord. Et puis, est-ce que les autres nations de près ou de loin Alors là, je ne comprends pas la question. Est-ce que les autres nations, de près ou de loin, peuvent s'appeler israélites?
Alors ça aussi, c'est une question
Oui.
que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, je demande à ceux qui ont posé les questions. C'est super parce que ça me fait une très bonne transition avec la partie qui suit, de bien vouloir patienter quelques
D'accord.
minutes et j'espère pouvoir traiter. Ou sinon, vous me reposez la question à la fin si vous
Les
estimez
gardons en
que...
réserve et puis
Voilà.
on contrôle.
Voilà, j'ai mis dans le
D'accord.
chat les références auxquelles
Un message.
je les ai mises par cœur, donc j'espère que je ne me suis pas planté de verset.
Parfait. Alors, je propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes.
Très bien.
Alors, à tout à l'heure.
À tout
Restez
à l'heure.
connectés et à tout à l'heure.